Performance Avignon 2015, première. Ah, il ne faudrait peut-être pas cacher le whisky. On ça, coupera. Tout ce qu'elle est gros, on coupera après. Ne vous inquiétez pas.
Mais t'as pas le texte.
Ça joue. Ça enregistre là. Il va me filer le texte. Allez.
T'as pas le texte.
Nous passons la parole à Yannick Butel, professeur des universités, ex-conseiller université.
Non, ça tu coupes.
En esthétique.
Bonsoir. Dans l'histoire de la pensée, Alain Badiou se pose comme un dinosaure de la philosophie. Néanmoins, il nous appartenait de contrarier l'homme préhistorique qu'il est. Le texte qui va être dit par Nina et Malte, deux jeunes comédiens et prometteurs de la scène internationale, aura à cœur de rappeler à Badiou que pour autant qu'il a l'âge qui lui permet d'avoir une certaine légitimité, la jeunesse a aussi son mot à dire. C'est à eux, und jetzt, die Republik von Platon.
Alors, mon cher petit timonier, tu sais qu'il n'y a de vérité que celle que l'époque fait. De vérité halétique, vérité vraie, il y en a si peu que seule la vérité liée au déontique, la loi de la cité, prévaut.
Ja, du hast recht. Le plus souvent, la vérité relève du déontique.
Aussi, ce n'est pas de la vérité halétique dont nous parlons, mais bien de celle qui relève de l'arbitrage des hommes.
Je ne vois pas ce qui me serait possible d'objecter.
Bien. Alors, si la vérité relève de la loi, voire des lois d'une époque, pour être précis, alors on peut supposer que cette vérité est un choix, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire que la vérité liée à la loi est nécessairement une vérité liée à une forme d'exclusion d'autres vérités qu'il était possible de retenir, mais que la loi n'a pas retenues.
Bien entendu. Retenir une vérité parmi l'ensemble des vérités, c'est forcément lier cette vérité à un mode d'exclusion.
Voilà, donc il faut donc convenir, petit timonier, que la vérité étant liée à un mode d'exclusion, elle dépend en définitive d'un ordre social. Il faut donc s'intéresser à la construction de l'ordre social pour connaître quelle vérité il retiendra.
Et l'ordre social du communisme est le seul ordre qui permet la vérité d'être.
D'accord. Quand tu écris La République, petit timonier, si jusqu'au 16 juillet nous t'avons écouté avec plaisir disserter sur la justice, l'opinion, l'État, etc., et que tu avais réussi à nous donner le goût de la réflexion, aujourd'hui il est apparu que ta réflexion, l'organisation de ta réflexion reposait en définitive sur un enjeu politique. Ce n'était plus la réflexion pour le plaisir de la réflexion, mais bien une leçon où tu nous as renseigner que ta vérité supposait un modèle politique afin qu'elle puisse exister.
Je ne m'en suis jamais caché. C'est la politique qui règle toutes choses.
Et c'est cela. Ça, on l'a bien entendu, mais alors très audiblement. Or, si tu avances l'idée d'un modèle politique, c'est-à-dire que tu fais un choix et donc que tu exclues les autres modèles, tu comprendras que la vérité est donc fille du temps, mais la fille du modèle politique aussi. Et puis j'ajouterais aussi que la proposition que tu fais ne relevant que de ton sentiment quand tu dissertais sur la vérité, tu ne t'inscrivais pas dans la déontique, mais bien dans l'épidictique, la vérité selon l'idée que le sujet s'en fait. Car je ne vois pas d'autre manière de nommer cela puisque c'est ton communisme respectable qui t'a conduit à organiser ta pensée. Ta pensée de la vérité.
Je suis convaincu que tu imagines quelques restrictions à cet endroit.
Ah, aucune restriction, mon petit timonier. Mais si tu permets, je ferai juste une remarque qui me paraît d'importance. Ok, alors à t'entendre depuis quelques jours, car c'est bien toi que l'on entend lorsque tu écris, La République, tu avances à peine masqué. Très logiquement, tu as convaincu le public assemblé que les philosophes devaient être les guides de la cité. Tu es toi-même philosophe. Ouais. Très logiquement, tu as démontré leur intelligence dans la résolution des questionnements. Très logiquement, tu nous as dit, donc, qu'un bon philosophe est un communiste. Et d'une certaine manière, t'abritant derrière Socrate, tu ferais presque la lucidité et de la pertinence de Socrate un philosophe communiste.
Tu es un peu rapide dans la démonstration, mais tu as repéré de faire mon artifice.
Merci. Merci, petit Timonier. Vois-tu, en fait, je n'ai aucun reproche à te faire et ton communiste...
Communisme.
Ton communisme. Je pourrais le partager, notamment celui qui nous fait espérer un communisme des esprits, comme tu as dû l'évoquer quand tu lisais Hyperion.
Voyez-vous ça? Tout ce dialogue pour rien, alors?
Pour rien? Je ne crois pas. En définitive, petit timonier, je règle autrement ma pensée que sur un raisonnement où les modes d'exclusion sont à tous les étages. Je fais le choix de ne pas appartenir à la colonie des porteurs, comme dirait Deleuze. Porteurs de vérité, porteurs d'espérance, porteurs de valeurs. Je fais le choix de Zarathoustra contre Socrate.
Eh bien, voyons. Et pourquoi donc? Oui?
Peut-être.
Ça, c'était déjà...
Tout simplement parce que ta proposition, comme toutes les autres propositions qui émanent de l'épidictique, la vérité selon le sujet, ne repose pas seulement dans sa construction sur le principe d'exclusion, mais qu'elle induit ensuite un modèle d'imposition. Car ce que tu nommes conversion et que tu obtiens par la séduction et la logique induit un effet de contrôle sur les personnes. Un asservissement volontaire.
Un asservissement volontaire.
Asservissement volontaire, oui monsieur.
Mais c'est le propos des hommes qui décident de vivre ensemble.
C'est le propre des
hommes. L'asservissement, oui, c'est le propre des hommes qui décident de vivre ensemble. L'asservissement volontaire dont tu parles n'est rien moins que le choix d'un modèle au détriment d'un autre dans l'intérêt général et le bien commun. Comment veux-tu régler autrement ce monde?
Ton adresse, petit timonier, est de revenir à cette vieille dialectique de l'éternel tir. Ce « ou bien » qui traîne dans l'espace politique comme le structurant de l'architecture politique. « Ou bien » c'est le communiste, « ou bien » c'est autre chose.
Comment penser autrement? Ton doute n'est pas constructif.
Mon doute? Ce n'est pas un doute, petit timonier, c'est un étonnement. Je m'étonne qu'alors que tu reconnais au poète une qualité aussi importante qu'au philosophe, que tu ne parviennes pas à t'extraire du modèle dialectique. Car si c'est par le modèle dialectique que tu parviens à la vérité, mais que cette vérité est liée à un ordre, puisque toute vérité est liée à une pratique de l'exclusion, donc qu'elle n'est qu'une vérité parmi d'autres, alors le modèle dialectique te conduit à une vérité dont tu sais qu'elle n'est que partiellement la vérité. Je m'étonne, tout simplement, que tu te satisfasses d'une vérité qui est, en définitive, le résultat d'un choix qui n'a que bien peu à voir avec la logique, mon petit timonier.
Certes, mais la situation commande que justement on fasse un choix et né d'organisation de la cité qui ne fonctionne sur ses principes et ses cartes du choix de l'élection.
C'est donc parce que tu t'imagines que tu n'imagines pas un modèle d'organisation sociale qui s'écarte du modèle électif ou du choix que tu justifies ton opinion. Ouais. Non, mais c'est bien, je comprends désormais pourquoi il te faut convaincre une majorité que tu as raison et que tu tentes de les persuader. En fait, il te faut une majorité pour que l'organisation sociale retenue te permette ensuite d'établir une vérité. Ouais, majorité et vérité vont ensemble.
Le bon sens l'emporte, enfin.
Le bon sens peut-être, mais pas la raison. Car tu vois, petit timonier, ce qui règle ta pensée relève en définitive de la volonté de trouver un ordre et une stabilité dont la fondation promeut l'idée fausse qu'il lui faut des certitudes. CF, la vérité. La reconnaissance d'une vérité va dans ce sens. Or, si la police, donc la cité, hein, exige selon toi cette certitude et cet ordre, tu oublies que la cité, c'est également le polos, le tourbillon. Le tourbillon. Et d'une certaine manière, l'instabilité liée au mouvement des idées, entre autres. Or, ton communisme qui privilégie l'organisation de la police exclut, là encore, le polos. Il exclut l'instabilité, le mouvement, la vie des erreurs et des recherches. Ce que tu défends, cher petit timonier, c'est une police dont on te fige l'histoire puisqu'on la prive du polos, du tourbillon. Tu sais plus.
Je te vois venir. Mon communisme, c'est donc totalitarisme. Une pratique autoritaire. T'as convenu? Voyons où tu veux en venir.
Bon. Eh bien, tu vois, petit timonier, si tu veux. Si tu veux bien croire que mon raisonnement n'est pas totalement bancal. Je me demande si tu ne devrais pas te remettre à l'ouvrage. Ta volonté de privilégier absolument la police dans ta quête de stabilité définitive se fonde sur l'exclusion du mouvement intrinsèque de celle-ci. Le polos. Comment en faire abstraction? Hein? Comment en faire abstraction? Si tu préfères un exemple, on pourrait dire, comme ça, que ce n'est pas parce que tu réussis à canaliser un torrent que tu évacues le risque d'une inondation. Ou... ce n'est pas parce que tu coules du béton sur un sol sismique que tu n'auras pas de tremblement de terre. On pourrait ramener tout ça à un effet Fukushima, bref. Pour autant que tu auras l'apparence de la stabilité, tu n'en auras pas l'apparence. Tu n'en auras que l'apparence. Or, il en va de même pour ton idéal communiste et ta police, dont l'architecture ne tient pas compte du polos. Et parmi toutes les formes que peut prendre ce polos, il y a la poésie.
Méfions-nous de la poésie.
Ne sois pas si fou, petit timonier.
Frilieux.
Entre ton communisme idéal et la poésie, il y a bien plus de points communs que tu ne veux te résoudre à l'envisager. D'ailleurs, si tu veux bien prêter à mon propos quelques pertinences, l'apparence leur est commune. Bon, mais passons. Hein. Méfions-nous d'une exclusion de la poésie, car la poésie, et tu noteras que je ne te parle pas du poème, qui n'est que l'une des formes de la poésie. Donc pas de poème, dis-je. Pas plus celui d'Homère que de René Char est la faculté première, car la faculté d'illimiter le langage.
C'est la faculté. Il faut lire un peu, messieurs les critiques.
Putain.
Ah, le retour de l'imagination. L'imagination au pouvoir. C'est ça.
Va ton sarcastique. Bon, on va essayer d'y arriver. L'illimitation du langage n'a pas à voir avec l'imagination, aussi peu que nous ne nous développerons pas. En revanche, l'illimitation du langage a tout à voir avec notre faculté à déplacer le monde, à le construire sans cesse, à le rendre habitable pour ceux qui le découvrent. Prenons un exemple encore. Imaginons que ta police soit en place. Imaginons que ton communisme idéal soit en place et donc que la stabilité, c'est-à-dire le figé et la clôture, soient en place. Comment une police clôturée pourrait s'ouvrir et s'intégrer et intégrer celui qui arrive d'ailleurs et veut y entrer? Devrait-il, au nom des règles exclusives de la police, la vérité exclusive, la justice exclusive, le savoir exclusif, la langue exclusive, soit un ensemble de protocoles d'exclusion?
Protocole.
Ta gueule. Soit un ensemble de protocoles d'exclusion, oublier tout ce qu'il est. Devrait-il pour entrer renoncer à ce qu'il est, renoncer à l'alliance de ce qu'il est et à ce qu'il deviendra en amalgamant ce qu'il est à ce que la police lui ouvrira? C'est impossible. La police ne peut qu'être ouverte au mouvement. Ce n'est pas un bunker, pas plus qu'une redoute. La seule solution, petit timonier, c'est que la police dont tu parles soit le dedans et le dehors. Une possibilité de jouer de ce double mouvement de dedans et de dehors, prompte, en définitive, à être l'espace d'un communauté augmentée. Et qui sait de ce mouvement...
Ah, c'est que j'ai cru, la communauté, c'était féminin en français. Bon, enfin, continuez.
Ce mouvement viendra peut-être...
Quel mouvement?
De ce mouvement-là, dont tu n'entraves rien. Viendra peut-être l'invention d'une langue, l'invention d'un éthos qui, pour autant qu'il ne saurait être exclusivement communiste, pourrait ressembler à quelque chose comme le communisme des esprits, ce qui n'est pas sans te rappeler l'Aufklärung.
Aufklärung, Aufklärung. Je vais réfléchir, mon petit critique. Tu n'es pas sans à propos. Même si à mon âge, on aimerait quitter cette terre en ayant le sentiment d'y avoir mis quelque chose à pousser.
Non, mais je te comprends, petit timonier. Et je partage cette idée de laisser quelque chose qui pousserait, qui déplacerait peut-être un communisme. Comme le dit Jack Ralit, le politique. Tu sais, c'est à la page 39 du dialogue que Karel Menin conduit dans La pensée, la poésie et le politique, publié au Solitaire intempestif.
Et donc, qu'est-ce qu'il y a là?
Infernal, je ne suis plus jamais avec toi.
C'est quoi la
page 39?
C'est un terroriste, hein?
Un terroriste.
Mais comment c'est terroriste?
Non, mais tu te rends compte?
Quoi donc? Qu'est-ce qu'il y a?
Ton interprétation libre.
Ah, mon interprétation, c'est pas moi, il a
les ronflements, les borborigmes, mais toutes ces nuisances sonores. Je te vois bien comme un terroriste du texte, un magnifique texte écrit avec la passion, même si j'ai oublié un E qui fait que d'une, voilà. On passe à d'un.
D'un communauté. Comment, qu'est-ce que ça veut dire, ben, ça?
Aufklärung avec...
Aufklärung.
Oui, mais j'ai oublié, c'est marrant.
Oui.
C'est vrai.
Non, mais c'est pas grave. Mais la sacralité...
Non, bravo, texte, enfin. bravo, c'était très bien. Tu sais que ce texte est vraiment pas con, hein.
Qui est écrit, on sait pas.
Tiens, non,
c'est ça enregistre encore, faudra couper, hein.
Oui,
c'est
ah, oui,
là. Ah, première prise finie, avec une de perdue. voilà.